Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là, regardez-moi, là, durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirez ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements, et dont à 20 parties, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez, sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs le rang de femme engage, et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit de moitié de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face, que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entend de mal les femmes d'aujourd'hui, mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont point des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien.
Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui.
Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire.
Deuxième maxime, elle ne doit se parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime, loin ses études de iade, ses eaux, ses blancs, ses pommades et 1000 ingrédients qui font des teints fleuris. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles et les soins de paraître belle se prennent peu pour les maris. Quatrième maxime, Sous sa coiffe, en sortant, comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Cinquième maxime. Or ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui de galante humeur n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. Sixième maxime. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Septième maxime. Dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier, ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Huitième maxime. Ces sociétés déréglées, qu'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Neuvième maxime. Toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste, car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Dixième maxime. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut point qu'elle essaye. Selon les prudents cerveaux, le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paye. Onzième maxime.
Vous achèverez seul, et pas à pas, tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient, qu'il m'attende un moment.